Merci beaucoup, Stéphane, pour cette belle prière. Et bon matin à vous tous, bon dimanche, et quelle joie d'être un enfant de Dieu rassemblé dans ce lieu, en train de chanter ces beaux cantiques, qui nous rappellent un peu de ce que le Seigneur a préparé pour nous, n'est-ce pas? Une rencontre au temps de la trône, dans le ciel, et tout peuple, toute langue, toute nation qui est là, qui est en train d'adorer le Seigneur. Quel grand Dieu nous avons ce matin! Vous savez que dans Psaume 100, le psalmiste dit ceci, « L'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Et ce matin, j'aimerais vous demander de faire quelque chose. C'est une découverte que j'ai faite récemment. Vous savez, ceux qui me connaissent, que je ne suis pas un Québécois pur laine. Moi, je viens de la Barbade. D'ailleurs, avec le nom Bridgman, là, ça aurait vous mettre la puce à l'oreille. Moi, je viens de la Barbade. C'est mon pays natal. Et ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et ça fait plusieurs années que je suis au Québec. Et j'ai appris le français. Je me suis marié avec une Québécoise purlaine. Alors, je n'avais pas le choix de justement apprendre la langue de Molière. Mes enfants aussi, on parle en français à la maison. Mais j'ai trouvé une chose, même j'ai enseigné aussi en français, je prêche en français, mais j'ai constaté que quand je suis en train de dialoguer avec mon père spirituel, dans l'intimité, j'utilise toujours ma langue maternelle qui est l'anglais. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je fais cela? Et je me suis rendu compte, c'est parce que Dieu est notre Père, je suis son enfant. Alors, dans ce moment où est-ce que je m'approche comme un enfant de mon Père, c'est tout à fait naturel que je m'exprime en utilisant la langue maternelle parce que c'est un enfant qui s'adresse à son Père. Et c'est pourquoi j'utilise l'anglais. Alors, ce matin, nous venons de dire que l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, je vais vous demander de faire une chose, de regarder ou bien d'aller voir votre voisin, votre voisine, et utiliser votre langue maternelle pour dire à la personne à côté de vous que le Seigneur est bon, l'Éternel est bon, sa bonté, je dis seulement, bonjour, Dieu est bon. Si vous parlez allemand, dites-le en allemand. Si vous parlez français, dites-le en français. Si vous parlez Wolof ou Doula, dites-le en Doula, qu'importe. Mais vous avez une expression portugais, dites-le. Vous avez une expression. Et le moment ce matin de vous exprimer dans votre langue maternelle à votre voisin, voisine, pour leur dire Dieu est bon. Alors bonjour, Dieu est bon. Allez-y. Je vous donne encore 30 secondes. Après ça, on va revenir. Oui. Good morning, God is good.
T'as-tu connu Dieu en anglais ou
en français?
En français. Ma sœur allemande n'est pas capable de prier en allemand parce qu'elle connaît Dieu en français.
Ouh. Ah, God is good. OK, alors, C'est juste un petit exercice pour vous démontrer que oui, notre Dieu est bon. Et, vous avez sans doute entendu Adama qui a dit cela dans sa langue maternelle. Déoula, j'imagine, Adama. Quelqu'un m'a dit, par exemple, Petra, qui est allemande, a connu le Seigneur en anglais, ici, en français. Tiens, c'est quelqu'un qui vient tout juste de... OK, c'est ça, dans ton milieu, tu l'as connu en français. Mais rassurez-vous, même si ce matin, vous n'avez pas compris ce que la personne qui vous a dit, si c'était dans une autre langue, au ciel, au trône de Dieu, on va tous nous réunir, puis on va tous comprendre, on va parler une seule langue. Oui, le français. OK, alors ce matin, vous avez le titre de mon message, « Papa, c'est ce qui est mieux ». C'est une traduction qui vient de justement de cette phrase, célèbre phrase en anglais. Father knows best. Je pense que notre façon de le dire, c'est Papa a raison. Et ce matin, je reviens sur notre texte que nous avons vu il y a trois semaines dans l'épître de Paul aux Corinthiens, où est-ce que nous avons parlé de la grâce de Dieu. J'ai regardé ce texte justement dans le contexte de l'orgueil face à notre Dieu, mais ce matin, j'aimerais voir un autre angle justement dans cette prédication. Vous savez, nous entendons souvent, et je ne sais pas, vous l'avez déjà entendu, ou bien peut-être vous l'avez déjà dit quand vous étiez plus petit, mon père est plus fort que le tien. Ou bien ma mère est plus forte que la tienne. Et vous savez, pourquoi est-ce que nous disons cela? Mais c'est parce que nous admirons, nous valorisons dans notre société la puissance, la force. Et c'est sûr que les enfants sont vraiment contents d'être capables justement de se montrer forts et puissants et utiliser justement le parent comme un modèle de puissance et de force. Et ça, ce n'est pas nouveau, parce que vous, même en ce moment-là, sans doute vous êtes au courant qu'il y a des Jeux olympiques qui maintenant est en Brésil, justement. Et nous, dans notre société, nous valorisons, oui, bien sûr, la puissance. Nous valorisons, oui, ceux qui sont les plus forts, les plus rapides, etc., etc. Et par contre, nous avons un certain mépris pour la faiblesse. C'est rare qu'un enfant va dire justement à son copain ou sa copine, mais mon père est plus faible que le tien. Ou bien ma mère est plus faible que la tienne. Et ça se dit pas. Hein? On est fiers, justement, de démontrer fort, démontrer puissant, de se démontrer en contrôle de la situation. Et nous avons un exemple classique, bien sûr, dans la parole de Dieu, où est-ce que nous avons la tour de Babel. Et là, nous avons, justement, ces gens qui sont là. C'est après le déluge. Et nous avons ces gens qui ont dit, oui, allons, bâtissons-nous une tour dont le sommet qui va aller jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Et là, vous voyez comment est-ce que nous voulons être toujours en contrôle de la situation, nous voulons toujours être se démontrer fort, se démontrer maître justement de notre situation. Et même, je peux vous raconter une petite anecdote, même dans notre fort intérieur, la situation de faiblesse nous dérange, c'est extrêmement difficile. Je m'appelle à la Barbade, c'est mon pays natal, j'avais à peu près 4 ou 5 ans. Et à la Barbade, nous mangeons beaucoup de poissons. C'est tout à fait normal. C'est une petite île dans la mer de Caraïbes plutôt, et il y a beaucoup de poissons. Et un jour, j'étais en train justement de me régaler d'un bon poisson. Et malheureusement, il y a une arête là, qui m'a piqué dans les amygdales. Et j'ai beau essayer d'avaler, mais il n'y a rien, il n'y avait rien à faire. Et finalement, mes parents ont décidé justement de m'apporter, de m'amener à l'hôpital. Et là, j'étais là un petit garçon, 4-5 ans à peu près. Il y avait le médecin qui est là, il y avait deux infirmières assez bien bâties. Et là, un petit garçon tout petit qui était là. Et là, j'imagine, je vois le médecin arriver avec justement une pince, là, puis il m'a dit d'ouvrir grand. Et dans ma petite tête, là, je tremblais et je trouvais, je voulais trouver une manière justement de m'en sortir ou bien de prolonger. En tout cas, de trouver une façon là, de ne pas avoir à justement passer par là. Alors, j'ai essayé, je dis, écoutez, attendez une minute, je voudrais enlever mes chaussures. Alors, le médecin, OK, il pensait peut-être, mais écoute, peut-être les chaussures, ils font mal, ça pourrait l'aider justement, parce qu'il savait que c'était traumatisant. Alors, il m'a permis d'enlever mes chaussures. Alors, OK, après ça, il m'a dit, mec, OK, on ouvre la bouche. Oh, attendez un instant, je voudrais enlever mes bas. Puis là, OK, il a dit, c'est correct, il m'a permis d'enlever mes bas. Il dit, OK, maintenant, tu ouvres ta bouche. Non, attendez un instant. Je veux enlever ma chemise. Mais rendu là, je pense que le médecin est devenu comme... OK, il s'est allumé là. Il savait qu'est-ce que je faisais. Puis là, il a demandé aux deux gardes malades justement de me tenir comme il faut. Il m'a ouvert la bouche, puis tout, il a enlevé l'arête qui était là-dedans. Mais juste pour vous montrer comment nous, dans cette situation de faiblesse justement, cette situation où est-ce qu'on se sent vulnérable, comment est-ce qu'on est mal à l'aise, n'est-ce pas? On aime toujours être fort, on veut être toujours en santé, on veut toujours être maître de la situation. Et vous savez, c'est la même chose pour nous, et même en étant adultes. Dans notre santé, on aime toujours être en bonne santé. Ça nous dérange, surtout les hommes quand on est malade. Hein? On a une grippe d'homme, là, c'est quelque chose qui nous dérange extrêmement. On n'est pas bien. Nous aimerons aussi que ça aille bien dans notre couple, avec nos enfants, avec nos finances. Dans tout ce contexte-là, nous sommes de ceux qui cherchent toujours à être en contrôle de la situation. Et je pense aussi, même, ce n'est pas nouveau, nous avons des enfants d'Israël, on vous donne quelques exemples, la Bible nous démontre cela. Après leur sortie d'Égypte, nous le voyons face à la mer Rouge. Et là, vous avez l'armée de Pharaon qui est en arrière, vous avez la mer Rouge qui est en avant. Ils sont coincés entre les deux et c'est la panique. Nous avons aussi... le récit de Goliath qui est venu menacer justement les enfants d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit que à la vue de cet homme, ce géant, les gens ont eu peur et puis ont dit qui est capable justement d'aller se battre avec cet homme. On pense aussi à cette veuve de Sarepta, cette pauvre veuve, il y a une famine qui sévit dans le pays. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu. Elle a juste un petit poignet de farine, puis aussi elle a un peu d'huile. Et là, le prophète arrive pour lui demander justement de faire un petit gâteau. Puis elle dit, c'est tout ce que nous avons, je vais faire un petit gâteau. Et après ça, moi et mon enfant, c'est ce qui nous attend, c'est la mort. Nous avons aussi l'incapacité de disciples, 5000 personnes qui sont là, qui ont faim. Et nous avons justement cette foule qui est là, et devant cette foule, l'incapacité des disciples justement de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur Jésus leur a dit, donne-leur à manger, mais ils disent, où est-ce qu'on va trouver assez de nourriture pour manger toute cette foule? Et on voit comment est-ce que les autres y ont réagi. On voit aussi Pierre qui est dans la prison. après avoir prêché justement l'Évangile à Jérusalem. Les souverains sacrificateurs, ceux qui sont en autorité, ne sont pas contents avec ce qu'ils font. Ils ont été jetés en prison et ils ont arrêté Pierre. Jacques a été justement tué par l'épée et Pierre maintenant est en prison. Et quelle situation à nos yeux désespérée, dans une situation de faiblesse. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations? Mais, comme vous savez, nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Et dans toutes ces situations, nous pouvons appeler notre Dieu à notre secours. Et peut-être, sans doute, vous l'aviez déjà fait si vous étiez dans une situation difficile en ce qui concerne votre santé. Peut-être en ce moment-là, vous êtes dans une situation où votre santé fait défaut. Peut-être aussi, dans votre couple, il peut y avoir une certaine problématique. Au niveau aussi de nos enfants, oui, c'est aussi, ça pourrait être une source de difficultés. Nos finances aussi, des fois, ça pourrait être aussi nous causer des problèmes. Mais nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Et juste pour vous donner les exemples que j'ai mentionnés, quand les enfants d'Israël étaient là, entre la mer Rouge et Pharaon en arrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu est venu. Et il a dit à Moïse quoi faire, il a ouvert la mer et ils ont passé et les enfants d'Israël ont été noyés. En ce qui concerne ce géant Goliath qui est venu menacer justement les enfants d'Israël, nous avons Dieu qui a suscité un libérateur, un jeune David qui est allé affronter ce géant et qui l'a terrassé, qui a gagné la victoire pour les enfants d'Israël. Pour cette veuve aussi à Sarepta, nous savons que le prophète Élie était là et il a dit non, fais-moi premièrement un petit gâteau et tu vas voir. Et elle a exercé de la foi et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un miracle. La farine, le petit pot de farine qu'elle avait, petit peu de farine, une poignée de farine et le pot d'huile. Pendant toute la famine, ça a toujours été là justement pour pouvoir ses besoins aussi, aux besoins de son garçon. Et finalement, Pierre, qui est en prison, qui dormait justement entre deux soldats. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? Je ne sais pas. Mais le Seigneur a envoyé un ange. Et quelle belle délivrance justement pour Pierre dans ce contexte-là. Et vous savez, il y a un beau texte qui nous parle de cela dans 2 Chroniques 16. Nous n'avons pas besoin d'y tourner. Mais ça nous dit que l'Éternel est celui qui se montre fort. Il regarde, l'Éternel regarde du haut des cieux pour se montrer fort en faveur de ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et ça c'est extraordinaire. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui peut justement délivrer ceux qui sont dans la difficulté. Mais ce matin, j'aimerais regarder l'autre côté de la médaille parce que c'est ça notre texte qui nous parle de cela ce matin. J'aimerais considérer avec vous des circonstances dans lesquelles on crie à Dieu, on demande à Dieu de changer les situations, puis il semble que Dieu n'agit pas. Que ce soit au niveau de notre santé, et probablement quelques-uns de vous, vous avez une problématique de santé, ça perdure et ça fait des années, ça devient difficile. Ça peut être aussi au niveau de votre couple. Il y a des difficultés au niveau du couple. Et là, vous criez à Dieu, vous demandez au Seigneur de venir, de vous venir en aide. À propos de nos enfants, vous savez, le désir le plus cher de tout parent chrétien, c'est d'avoir élevé leurs enfants dans la crainte du Seigneur, de les voir aussi à un moment donné prendre une décision pour le Seigneur et marcher dans ses voies. Et je suis certain, plusieurs entre vous et moi-même aussi, je m'inclus là-dedans. Ça fait des mois, ça fait des années qu'on prie pour nos enfants et il semble qu'il n'y ait rien qui se passe. Ça peut être aussi au niveau de nos finances. Peut-être quelques-uns ici, vous êtes dans une situation où les finances sont précaires. Et là, vous criez au Seigneur pour venir en aide, pardon. Alors, comment est-ce que nous devrions réagir dans de telles circonstances? Est-ce que Dieu est endormi, un peu comme quand Élie était sur le mont Carmel, puis justement dit aux les 450 prophètes de Baal, « Criez plus fort, peut-être votre Dieu est en vacances ou bien il faut le réveiller. » Est-ce que notre Dieu est comme cela? Et vous savez, quand nous sommes dans cette situation difficile, et Dieu ne semble pas répondre à nos cris, dans un premier temps, il peut y avoir le doute qui s'installe. Est-ce que Dieu est-ce qu'il a mon bien à cœur? Est-ce qu'il est tout ce qu'il a dit qu'il est? Et comment se fait-il que dans le passé, on le voit dans la parole de Dieu, on voit sa puissance? Comment se fait-il que ça fait des mois, des années que je lui demande une telle chose et il semble que rien ne se passe? Et vous savez, il peut y avoir aussi une progression. Après le doute, il peut s'installer la déception. Moi, je pensais un peu comme la vie chrétienne, c'était si je deviendrais chrétien, chrétienne, mais après ça, je n'aurais plus de problème. La vie, et surtout, il faut faire attention parce que parfois, c'est cette notion qui est véhiculée, justement, dans ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, puis la vie est belle, la vie est... Aucun problème, tu vas avoir tout ce que tu veux, un beau char, tu vas avoir la belle maison, tu vas avoir, en tout cas, tu vas rouler en Cadillac. Mais ce n'est pas la vérité. Et vous savez, on peut justement progressivement aller du doute à la déception, même du découragement. Ou est-ce qu'on est découragé à cause des circonstances, comme je dis, qui perdurent et ne semblent pas en avoir justement de sortie? Ça peut aussi amener à une dépression et ça peut aussi amener finalement à l'amertume. Ou est-ce que dans nos cœurs, on a justement ce ressentiment à l'égard de Dieu? Comment est-ce que Dieu, pour être si bon comme la parole de Dieu le dit et le déclare, et dans ma situation, il permet qu'une telle chose m'arrive? Et vous savez, si on adopte cette attitude, on est rendu jusqu'à là, vous savez, qu'est-ce qui va arriver? Dans un premier temps, notre vie chrétienne, ça va stagner. Parce qu'on ne peut pas avoir ces sentiments dans nos cœurs et progresser dans justement notre relation avec le Seigneur. Alors ça va être quelque chose qui est extrêmement difficile. Notre vie va stagner. Et aussi, il risque aussi de nous amener à être rétrograde. Alors, si c'est comme ça la vie chrétienne, si c'est comme ça que Dieu agit à mon égard, mais écoute, je pense que je peux penser à d'autres choses. Et vous savez, on a des exemples des personnes qui ont passé par des choses semblables. On pense ici à Job ce matin, un homme qui a perdu tout. Ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu ses serviteurs, il a beaucoup, beaucoup de choses. Et vous savez, l'ennemi, dans ce contexte-là, et il a utilisé justement l'épouse de Job pour dire justement, « Tu restes intègre. Maudit Dieu et meurt. Dans ta situation, c'est mieux que tu meurs que de continuer justement dans cette situation-là. » Et on a des exemples plus récents dans notre vie. Vous avez sans doute entendu parler de Johnny Erickson, cette jeune fille qui a eu un accident, justement, de natation. Elle est plongée, justement, puis elle s'est fracturée la nuque. Elle est restée, justement, quadriplégique et était dans une chaise roulante. Mais au début de cet accident, elle était extrêmement découragée, déprimée, puis même, elle même aurait voulu se suicider. Alors, comment est-ce que nous devrions réagir dans de telles circonstances? Est-ce que Dieu n'est plus le même comme il était dans l'Ancien Testament? Ou est-ce qu'on voit justement ce Dieu qui agit puissamment? Est-ce que Dieu a perdu justement le contrôle des circonstances? Comment est-ce que je gère les sentiments que je ressens quand je suis vraiment dans la difficulté? Je crie à Dieu à l'aide, il ne semble pas agir à mon égard. Alors, vous savez, ce matin, nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer face à ces circonstances. Et pour cela, je vais vous demander de prendre vos Bibles et nous allons regarder un texte que nous avons déjà vu, mais comme je dis, nous allons le regarder sous un autre angle, dans 2 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire au verset 7. Et dans ce contexte, je mets un peu de contexte avant de lire le texte, nous avons l'apôtre Paul, un homme extraordinaire qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et dans ce texte de Corinthiens 12, verset 7, il parle justement de comment il y a eu ces révélations extraordinaires de la part de Dieu. Et il a dit que justement, à cause de cela, je lis au verset 7 et on va aller jusqu'au verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il parle des révélations qu'il y a eu au ciel. Il a entendu des choses, comme le texte nous dit, qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Et dans au verset 7, le texte dit ceci. « Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow, quel beau texte. Quelle réponse à la faiblesse que nous ressentons quand nous sommes dans de telles situations où est-ce qu'il semble que notre Dieu est indifférent, qu'il dort, on se trouve dans une situation extrêmement vulnérable et on crie à Dieu. Et ici, nous avons une réponse que Dieu va dire à l'apôtre Paul, qui était dans une situation aussi extrêmement difficile. Comme je voulais aussi en ce moment rectifier quelque chose que j'ai dit il y a 3 semaines. Cet ange de Satan que le Seigneur a permis justement de venir dans sa vie, je vous ai dit que les commentateurs y ont deux opinions différentes là-dessus. Il y a quelques-uns qui le voient comme une infirmité dans la chair. Paul, il parle dans Galates justement de ces problématiques. Il a dit que vous auriez même arraché vos yeux pour me les donner. Il y a quelques-uns qui pensent qu'il fait référence à cela. Ça l'empêchait justement de s'épanouir. C'était comme des obstacles à son ministère. Il y a d'autres qui disent, dans le contexte, puisque c'est dit un écharpe d'un ange de Satan, c'était un homme, quelqu'un qui était dans l'assemblée à Corinthe, qui menait justement, qui faisait justement que Paul passait des mauvais quarts d'heure, si vous voulez. C'est extrêmement difficile. Et je vous ai cité John MacArthur pour vous dire que moi, je prenais cette position, mais John MacArthur aussi, c'est un être humain comme nous autres. Il peut y avoir aussi tort. J'aimerais rectifier le tir. Ce matin, on ne peut pas dire de façon dogmatique si c'est un ou l'autre, mais ce que nous pouvons dire ici, c'est que cette situation dans laquelle l'apôtre Paul se trouve l'amène dans une situation de faiblesse. Qu'importe la source, il est dans une situation de faiblesse. Alors, dans cette situation de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier au Seigneur. Il va demander au Seigneur, un peu comme les enfants d'Israël, coincés entre la mer Rouge et Pharaon, ils ont crié à l'Éternel. C'est un peu aussi comme les enfants d'Israël devant le géant Goliath qui était là, qui les menaçait. Pendant 40 jours, ils ont crié à l'Éternel. Et le Seigneur, il est intervenu de façon spectaculaire. Alors, Paul aussi, la même chose, il va crier à l'Éternel. Il va crier au Seigneur. Trois fois même, il a dit, j'ai demandé au Seigneur de m'éloigner de moi cette chose. Et voilà la réponse. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Quand il s'agit de la grâce, il y a deux explications, des significations plutôt, du mot grâce. La première signification, c'est quand on parle de la grâce salvatrice. Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans ce contexte-là, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu à notre égard. Il n'y a personne ici qui mérite quoi que ce soit. Nous méritons à cause de ce qui nous sommes par nature, des pécheurs, la mort et l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, de façon extraordinaire, a décidé dans sa bonté, dans sa façon de voir justement son amour pour sa création, a décidé justement d'user de grâce et justement nous donner une manière d'échapper à la mort et l'enfer, qui est la grâce salvatrice. Une faveur que nous ne méritons pas. Personne, comme ils disent, que personne ne se glorifie. Mais il y a aussi un deuxième aspect. Et dans le contexte ici de notre texte, le deuxième aspect de la grâce, et je vous lis ce qui est ici, c'est la bonté miséricordieuse par laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers le Christ, les garde et les renforce. Cette influence les amplifie dans la foi chrétienne, dans la connaissance, dans l'amour, et suscite en elle des vertus chrétiennes. Et ça, c'est la réponse de Dieu pour la faiblesse de Paul dans une situation extrêmement difficile. Dieu va dire à Paul, « Ma grâce te suffit. » À cause de ce que cette grâce va faire dans la vie de Paul, cette bonté miséricordieuse, Dieu va exercer maintenant une sainte influence dans la vie de Paul. Ça va le tourner vers le Christ. Ça va le garder, le renforcer. Ça va aussi faire augmenter. Il va croître dans la foi, dans la connaissance et dans l'amour. Il va mieux connaître son Dieu. Et aussi, ça va développer en lui, justement, des vertus chrétiennes. Et dans des situations, comme j'ai dit, où est-ce que nous sommes dans une situation de faiblesse, et nous crions à Dieu, et Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Seigneur, comme Paul dit, ôte-moi cette écharpe de ma vie, je n'en veux pas. Et Dieu répond, ma grâce suffit. Voilà justement qu'est-ce que la grâce de Dieu va faire face à la situation. Et je vais juste prendre le temps de décortiquer cela. L'application, ça c'est ce que Dieu offre. Mais quand nous acceptons cela, et quand vous l'acceptez, pour votre situation, dans un premier temps, cette grâce nous tourne vers le Christ au lieu d'être centré sur nous-mêmes. Vous savez que quand on est dans une situation difficile, c'est quoi la première chose qui nous vient à l'esprit? On est tellement pris, et je ne veux pas minimiser non plus la douleur qui découle des situations difficiles. Je sais que ça peut être extrêmement difficile. Et ça peut venir justement de plusieurs sources. Vous avez quelque chose dans votre santé qui vous... C'est tellement difficile à supporter. Sans doute, peut-être, vous avez des enfants, vous avez prié pour eux semaine après semaine, mois après mois. Vous voyez justement ces enfants, des fois, se sont même empirés dans le contexte. Quand ils étaient jeunes, oui, on les a amenés à l'école dimanche, on a prié avec eux, on a chanté avec eux, et maintenant, rendus grands, ils ont pris une tangente. Et ça nous fait mal. C'est une douleur que nous vivons. Et le danger ici, c'est qu'on peut se concentrer sur nous-mêmes et développer cette pitié de soi, pauvre de moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela dans ma vie? Etc., etc. Et vous savez, quand on tourne vers le Christ, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi a connu des choses extrêmement difficiles. Lui, dans un certain sens, nous méritons un peu qu'est-ce que nous vivons parce que nos premiers parents ont emmené le péché dans le monde. Et nous subissons aujourd'hui ce qu'eux nous ont légué. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, sans péché, sans tâche, a aussi connu. Il y a eu son lot de difficultés, de faiblesses, de douleurs. Et même devant son épreuve la plus extrême, devant la croix, où est-ce qu'il allait justement être brisé pour nos péchés, qu'est-ce qu'il a dit? Son attitude dedans, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors, cette grâce que Dieu nous donne nous permet alors de mieux apprécier les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est très important un peu plus tard. Deuxièmement, cette grâce que Dieu nous donne nous garde et nous fortifie dans notre faiblesse. Il y a un beau texte qui dit ceci, que nous fortifier à tous égards par sa puissance. L'apôtre Paul est en train de prier ici dans ce texte en Colossiens. Okay? Et c'est bien, oui, que nous prions quand on a des réunions de prière. Oui, on entend prier pour la santé d'un tel, prier pour cela. Mais nous avons aussi un besoin qui est beaucoup, beaucoup plus, comment dirais-je, important dans la vie chrétienne. Parce que à un moment donné, nous allons être confrontés avec une situation difficile. Et Paul, dans ses prières pour les Colossiens, pour les Éphésiens, regardez ce qu'il demande toujours. Il va demander à Dieu qu'il soit fortifié par l'Esprit dans l'âme intérieure, fortifié à tous égards par sa puissance. Et c'est ce que la grâce de Dieu faire. Quand nous l'acceptons, cette grâce va nous fortifier et nous donner la capacité justement de supporter la situation. Une autre chose aussi que la grâce nous fait, nous amplifie dans la foi, la connaissance et l'amour par rapport à notre immaturité. Quand on est dans des situations difficiles et quand nous tournons vers Dieu et Dieu nous offre sa grâce et nous l'acceptons cette grâce, mais il y a des choses extraordinaires qui se passe. Notre foi est fortifiée. Notre connaissance de notre Dieu est fortifiée. Notre amour aussi envers Dieu est fortifié. Et la grâce est cette capacité que Dieu nous offre pour justement accomplir cela. Et la prière pour l'apôtre Paul, l'exhortation, il dit aux personnes, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement, tellement, tellement important. Et aussi, la grâce suscite en nous les vertus chrétiennes versus notre amertume. Là, dans une situation difficile, vous avez deux possibilités. Soit de, justement, blâmer Dieu, blâmer les circonstances, blâmer les autres, focaliser sur soi-même, développer l'amertume. Ou bien, comme la parole de Dieu nous dit, à cause de la grâce de Dieu qui nous permet, justement, de passer par cette situation, qu'on soit persévérant et patient. Vous avez besoin de patience, la parole de Dieu nous dit. Et la grâce de Dieu va nous donner justement cette attitude de cœur dans la difficulté, dans l'épreuve, d'être persévérant et d'être patient. Il y a un beau texte ici dans 1 Corinthiens 10, 12, c'est pas besoin d'y tourner, mais l'apôtre Paul va dire ceci, « Aucune épreuve ou tentation vous est survenue, qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, avec la tentation. Il pourvoira aussi le moyen de s'en sortir. Pourquoi? Afin que vous puissiez quoi? La supporter. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui fait cela. Là, il y a trois semaines, je vous avais laissé avec un petit slogan. Parce que j'ai dit ceci, si tu aimes ton Dieu et pas le pieux, l'écharpe dont Paul y parle dans ce contexte, le mot grec, c'est un pieu. Et on sait qu'un pieu, il dit ça fait mal. Hein? Et dans une situation difficile, on pourrait justement détester. Pourquoi est-ce que Dieu te permet ça dans ma vie? Pourquoi? Mais quand l'épreuve fait surface, fait appel à la grâce. C'est que quelques-uns peuvent dire, mais c'est quétaine, comme on dit un bon Québécois. Mais vous savez, on a une manière de se rappeler des choses quétaines. Je pourrais vous poser la question peut-être après la réunion. Donc, quand dans votre jeunesse, il y a des petites rimes. Mais je ne veux pas après que vous me dites, hey, c'est un bon sermon. Oui. Non, mais j'aimerais que dans trois semaines, un mois d'ici, si je vous demande de quoi est-ce que je vous ai parlé lors du 21 août, mais vous avez rappelé. Si tu aimes ton Dieu, oui, Dieu, il y a un plan pour votre vie, n'aie pas le pieux, mais quand justement l'épreuve fait surface, fais appel à la grâce. La grâce de Dieu nous suffit. Et Dieu voudrait justement que nous prenions cette grâce. Vous avez l'exemple de Johnny Erickson, celui qui a écrit justement, comme je vous ai parlé avant. Et c'est une femme qui a appris à accepter la grâce de Dieu. Et ici, elle dit « Let God be God ». Si elle n'avait pas au début compris qu'est-ce que Dieu faisait dans sa vie. Mais cette attitude justement de dire « Écoute, le Seigneur est en contrôle et justement, je vais lui laisser diriger ma vie. » Et elle a dit ceci, « Il a choisi de ne pas me guérir. » Combien de personnes sont allées auprès d'elle quand elle était à l'hôpital et ils ont prié, ils ont posé les mains et ainsi de suite. Mais elle a dit « Il a choisi de me tenir. » Et ça, pour elle, c'était une source de puissance et de force pour elle. Alors, ce matin, j'aimerais justement faire une application. Vous savez, si vous êtes devant une situation difficile, peut-être dans le passé, et je ne sais pas ce que vous avez vécu, il y a une parole dans Hébreux 13, 15 qui nous dit ceci, que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne poussant des rejetants. Et l'idée ici, c'est que si vous vous privez de la grâce de Dieu que Dieu vous offre ce matin, vous allez développer justement une racine d'amertume. Et si c'est votre cas ce matin, si vous êtes dans une situation où vous avez justement ces sentiments amers envers Dieu peut-être, envers la situation, envers ce que la vie vous a apporté. Vous savez, il y a un autre texte qui va venir contrebalancer cela. Dans Hébreux 4, 15, 16, l'apôtre Paul va de ceci, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. C'est quoi le remède maintenant dans ce contexte? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde, Dieu est prêt à pardonner. Si nous avons dans notre cœur de l'amertume, de la rancune envers Dieu, envers la vie, envers les circonstances, la miséricorde de Dieu est là, pour, justement, Dieu est prêt à nous pardonner cela. Et aussi, qu'est-ce que le texte dit? Pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Quel beau texte. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Peut-être ce matin, vous êtes sur une pente glissante. Et vous êtes à l'étape, peut-être, de doute. Dieu, comment est-il si bon que cela? Pourquoi est-ce qui a permis une telle chose qui m'arrive? Ou bien vous êtes à l'étape de la déception, au découragement. Vous savez, encore une fois, pardon, la parole de Dieu est là, justement, pour nous arrêter sur cette pente glissante. Ma grâce te suffit. Et aussi, vous dites, ah, la vie est belle. Je n'ai pas eu de problématique dans le passé. Dans le moment, ça va très bien. Mais vous savez, il y a des personnes qui passent par des choses difficiles. Et nous pouvons prier pour eux autres. Et j'ai sauté une étape, mais on va le faire assez vite. Par notre soumission, nous affirmons la souveraineté de Dieu. Dieu est en contrôle. Nous nous ressemblons un peu plus au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous alignons avec le plan original de Dieu pour l'humanité et nous démontrons notre amour pour Dieu. C'est ce qu'on accepte la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps de développer, je vois que le temps passe vite, mais c'est ce qui arrive quand nous acceptons la grâce de Dieu dans notre vie, nous disant que Dieu est souverain. Mais j'aimerais vous laisser avec ceci. Je pense que c'est une très bonne application. Ça, c'est notre frère Gabriel avec son épouse Mélanie, avec les enfants qui sont là. Et vous savez, on pourrait dire, écoute, moi, ça va bien. Je n'ai pas de rancune envers Dieu pour le passé. Dans le présent, super bien, oui, mais vous pouvez aussi avoir un souci, une prière, soutenir. La grâce de Dieu aussi est là pour soutenir. Et j'ai rencontré Mélanie ce printemps lors d'une conférence sur où est-ce qu'il y avait des ouvriers, des anciens. Et Mélanie était très bien contente, d'annoncer parce qu'elle s'était faite ligaturer après 4 enfants. Bon, la famille est complète, là, mais elle est tombée enceinte. Et elle avait donné justement à l'enfant Netanaïa, cadeau de Dieu, parce que les autres, ils ont tous des noms, Adassar et ainsi de suite. Là, tout est Sephora, Manoah, en tout cas. Donc, Netanaïa, cadeau de Dieu. Mais ce qui est arrivé plus tard, en allant sur son médecin, elle a eu la nouvelle que le bébé sera en anencéphale. Ça veut dire que le cerveau ne se développe pas. Et ce matin, j'aimerais justement vous demander de prier pour cette famille qui sont éprouvées. J'ai parlé avec Mélanie et mercredi dernier, juste pour vous montrer comment est-ce que le Seigneur est capable. Et dans cette situation extrêmement difficile, son attitude, c'est qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cela? Il n'y a pas d'amertume. Mais ils sont humains. Ils vont avoir besoin justement de nos prières, notre soutien. Mais elle, son désir, c'était comment est-ce que Dieu va utiliser cette situation pour se glorifier? Et vous pouvez imaginer justement en étant une mère, vous allez avoir la joie, comme la parole de Dieu nous dit, que quand une femme met un enfant au monde, elle oublie justement la douleur de l'enfantement à ce qu'un enfant est né. Mais pouvez-vous imaginer, parce que cet enfant a très peu de chances à survivre. Et c'est la deuxième fois que cela leur arrive. Ils ont déjà eu un. Et pourtant, à travers cette souffrance-là, ses yeux sont tournés vers le Seigneur. Elle baigne dans sa grâce. Et elle veut que cela soit un témoignage pour justement toute l'équipe médicale qui va justement faire l'accouchement. La grâce du Seigneur qui soutient cette famille dans une épreuve extraordinaire. Alors, je dois terminer ce matin. Je vois que le temps passe. Mais voilà, que le Seigneur nous fortifie. Si ce matin vous êtes dans l'épreuve, si vous avez été déjà dans l'épreuve, si vous avez des situations difficiles, tournez-vous vers le Seigneur. N'oublions pas que ce qu'il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour qui tu es, ce Dieu extraordinaire qui nous aime, qui nous a façonnés même dans le sein de notre mère. Et ce matin, nous te demandons d'être avec tous et chacun. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les fardeaux, tu connais ce que nous éprouvons. Mais tu es un souverain sacrificateur, comme ta parole nous dit, qui puisse compatir à nos faiblesses, car tu as été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Mets ta bonne main, Seigneur, sur ton peuple. Mets ta bonne main sur chacun de nous. Seigneur, mets une bombe sur les cœurs, Seigneur, et vraiment relève, restaure, fortifie, afin que nous puissions dire oui, l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te donner toute la gloire, même si nous ne comprenons pas des fois des circonstances que tu permets qui arrivent dans notre vie. Mais voulons ce matin te dire, Seigneur, que nous te faisons confiance. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.